Bonjour à tous et bienvenue. Élections locales ivoiriennes après la dénonciation par la CEI des activités de propagande électorale dans des localités. Le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao nous éclaire sur les notions de campagne et pré-campagne qui sont des étapes différentes selon lui. Nous parlerons d'éducation nationale. Claude Akakadio, le président de l'OPCI, l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, nous donnera quelques conseils. Conseils naturellement également aux parents et aux élèves pour la future rentrée scolaire. Au Burkina Faso, 5 policiers ont été tués lors d'une attaque dans le centre-est, a annoncé l'état-major dans un communiqué hier dimanche. Dans cette édition, nous aurons un dossier d'actualité proposé par Junior Cardin. Ce dossier s'intéresse aux violences basées sur le genre en politique. Et puis, dernier temps fort, l'invité de la rédaction ce lundi, qui est le député PPACI, KID Jean Gervais, et répondra aux questions de Soro Adams et se prononcera sur la question de la menace de la CDAO d'intervenir militairement au Niger. Merci de nous retrouver. Bienvenue à tous. La commission électorale indépendante a dénoncé le jeudi 17 août dernier des activités de propagande électorale dans certaines localités et via les réseaux sociaux avant l'ouverture officielle de la campagne électorale des prochaines élections municipales et régionales. Dans ces conditions, qu'en dit-on qu'un candidat fait effectivement campagne avant l'heure, suivant les éclairages de Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique?
Il faut faire la différence entre la pré-campagne et la campagne. La pré-campagne est une période de contact entre les potentiels candidats ou les candidats avec l'électorat sans que les candidats appellent les électeurs à voter pour eux, sans les affiches électorales, sans la propagande électorale. Il fait campagne avant l'heure lorsque, avant la date officielle fixée pour la campagne électorale, le 25 août, le candidat va vers les électeurs, organise des meetings et demande aux électeurs de voter pour lui tout en leur présentant son programme de société. Il y a campagne avant l'heure lorsque les affiches publicitaires appelant à voter un candidat sont affichées dans les rues de la circonscription. Il y a campagne avant la période lorsque des candidats vont sur des médias, la télévision, la radio ou dans les journaux, demander aux uns aux autres de voter pour eux. Tout ceci participe à faire campagne avant la période légale de campagne. Ils ne peuvent pas aller vers l'électorat avec des t-shirts, des tricots, des objets portant par exemple leur effigie. Ils ne peuvent pas aller vers l'électorat pour leur dire « Je suis candidat le 2 septembre, votez pour moi ». Évidemment, il va leur parler de tout et de rien, sauf à parler de l'élection.
Vous venez d'écouter Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique. Toujours sur le sujet, position, on veut parler ainsi du Niger. Le chef de la junte nigérienne, samedi soir, dans un discours, a présenté sa feuille de route, une transition de 3 ans maximum, tandis qu'une délégation de la CDAO était présente ce même samedi à Niamey. Elle a pu échanger avec le général Tiani et rencontrer aussi Mohamed Bazoum. Le professeur Bamba Abdoulaye, historien, décrypte pour nous la posture des deux parties.
La junte au pouvoir est consciente qu'à l'international, les États-Unis et la France ne parlent pas le même langage. Donc, en allant sur la piste d'une transition, elle peut avoir une position américaine beaucoup plus souple, beaucoup plus modérée, et dit que, bon, désormais, la page Bazoum est tournée, mais on peut organiser des élections démocratiques, inclusives, pour que les soldats s'y retirent. Ce serait peut-être une porte de sortie assez élégante pour les soldats. La junte au pouvoir, lorsqu'elle fait marcher la population, lorsqu'elle organise ce genre de marche, pour montrer l'opinion internationale que même la population ne veut plus de Bazoum, et qu'elle, elle est dans la posture d'organiser des élections pour que de nouvelles autorités puissent diriger le Niger. À l'échelle sous-régionale, vous savez que la CEDEAO est en train de mettre en place sa force d'attente. Pour la CEDEAO, c'est le coup d'état de trop. Si elle se met dans la même posture que celle qu'elle a eue avec le Mali, le Burkina et la Guinée, après le Niger, il faudrait s'attendre à d'autres types de coups d'état. Donc, la CEDEAO bande un peu ses muscles pour essayer de mettre toujours la pression sur la junte au pouvoir. Naturellement, chacun montre d'un côté qu'il est disposé à discuter, mais on n'écarte pas l'hypothèse d'un affrontement militaire au cas où la CEDEAO serait amenée à appliquer les décisions des chefs d'État. Donc vous voyez, c'est comme un jeu d'échecs. Hein. Chacun pousse ses pions, mais montre à l'opinion internationale qu'il est disposé à discuter si toutefois les conditions d'une négociation sont établies. Mais dans tous les cas, chacun évolue en fonction d'une stratégie et d'une tactique.
Le professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le dossier du Niger suscite toujours les réactions, tant dans la société civile que dans les partis politiques. Ainsi, après le PPACI, c'est le PDCIRDA qui se dit opposé et demande de la retenue aux uns et aux autres. Son porte-parole, Soumaïla Bredoumi, recommande que cette crise soit résolue pacifiquement par la voie du dialogue et des négociations sincères.
Le PDCI-RDA est un parti de paix et de dialogue et estime que tout ce qui est différent doit pouvoir se résoudre par le dialogue et la négociation. Parce que le père fondateur de notre parti a dit que même si, par extraordinaire, on commençait par la guerre, par la violence, on sera à un moment donné obligé de s'asseoir pour dialoguer et dans des conditions plus difficiles après des pertes en vie humaine et matérielle. Donc le PDCI-RDA reste collé à ses valeurs de dialogue, de paix et de stabilité par la négociation, le règlement pacifique des différends. Et le PDCI appelle par conséquent tous les protagonistes de cette crise, y compris la CEDEAO, à la retenue de tout moyen d'intervention autre que le dialogue. Alors faisons l'économie des pertes en vie humaine, des dégradations dans la sous-région et allons par le dialogue. Le dialogue, c'est long, c'est pénible, mais c'est l'âme des forts et non des faibles. Mais on aboutira toujours à un compromis, à un règlement pacifique. C'est la voie du PDCI-RDA. Donc, seule la voie diplomatique, avec l'ouverture sans délai des négociations sincères qui tiennent compte de la souveraineté du peuple nigérien, est la seule voie pour résoudre cette crise et créer les conditions d'une paix durable au Niger et dans la sous-région.
À l'instant, le porte-parole du PDCI-RDA, Soumaïla Bredoumi. Extrémisme violent, terrorisme, face à ces dangers qui frappent certains pays de la sous-région ouest-africaine, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, entend prévenir. Une campagne de sensibilisation est initiée et les imams de Côte d'Ivoire ont été mis en mission par le président du COSIM, le cheikh Ousmane Diakité. C'était le mardi 15 août dernier à Abidjan lors de la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an. Le nouvel an 1445 de l'Égypte, de la communauté musulmane, un aperçu des contours de cette campagne avec l'imam Sekou Sila.
Le terrorisme, l'extrémisme violent, comme vous le savez, ce sont ces fléaux-là qui créent des problèmes à travers le monde aujourd'hui, et particulièrement dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest ici. Et le chef, donc, dans l'allocution, à la limite, attirer l'attention des imams sur l'importance de la lutte contre ces fléaux, et à savoir informer nos fidèles et les sensibiliser sur le danger de ces fléaux. Et particulièrement, les imams, il nous a été demandé donc d'être très vigilants dans nos mosquées, surtout de veiller à la présence d'individus non identifiés. Certes, la Côte d'Ivoire est dans une large part épargnée par ce phénomène, néanmoins, nous demeurons vigilants et nous veillons au gré pour que le terrorisme, l'extrémisme violent ne viennent pas perturber la quiétude de nos concitoyens. C'est ainsi donc que chaque imam est appelé à faire cet effort de sensibilisation et d'éveil pour que donc nous ne soyons pas surpris par les événements.
L'imam Sekou Sila, il est imam de la mosquée Nour de la Riviera 2 et membre du bureau exécutif du COSIM, éducation nationale, à 12h09 sur nos antennes. Les enseignants, membres du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, demandent la suppression des cours du mercredi dans le primaire. Au nom des parents d'élèves, Jean-Roger Botton-Bouquet, le président de l'UNAPECI, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, affirme qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de circonspection. Nous l'écoutons.
Anciennement, on avait cours lundi, mardi, mercredi et jeudi et telle chose, et puis on reprenait vendredi, samedi. Il y a eu des aménagements qui font que désormais, le mercredi est un jour tampon, et c'était temps qui avait donné lieu à des cours de renfort et autres. Et le supprimer par rapport au niveau des enfants qui a baissé tout et tout, nous supposons qu'il y a eu vraiment une réflexion qui a été faite avant de proposer la suppression du cours du mercredi. Si tel est le cas, on en jugera. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est vraiment un programme très réduit et je pourrais dire aussi condensé. Donc, si cela a donné lieu à la réflexion et qu'aujourd'hui on propose la suppression, nos parents, nous attendons de voir. Anciennement, l'éducation rime avec l'expérience, avec la réflexion avant l'action, nous basant sur ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu. Et nous croyons que les plus hautes autorités, avec à sa tête Madame le ministre de l'Éducation nationale, nous pouvons dire que nous attendons de voir.
Voilà, c'était Jean-Roger Botton-Bouquet, le président de l'UNAPECI, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Éducation nationale toujours, c'est bientôt la rentrée scolaire 2023-2024 et à quelques semaines du retour des élèves dans les salles de classe, le président de l'OPCI, l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, donne quelques conseils. Claude Akakadio demande aux parents de prendre des dispositions pour fournir aux enfants tous leurs manuels scolaires et à ceux-ci d'être assidus au cours dès le début de la rentrée.
J'ai constaté chez moi dans mon quartier que les élèves ne se sont pas reposés. Ils ont passé tout le temps à faire des cours de vacances. Et ça me fait peur parce que le temps des vacances, c'est vraiment permettre à l'organisme de se reposer afin d'être d'accord à la reprise. Donc je demande déjà aux parents d'éviter cela. Je demande aux parents de prendre déjà des dispositions au niveau des fournitures et tout pour que dès le premier jour, les élèves puissent être en classe. Les élèves aussi doivent comprendre qu'ils doivent être là et aller à l'école. Parce qu'on dit, non, c'est pas encore bien commencé, le professeur n'est pas encore arrivé. Non, même si le professeur n'est pas arrivé, l'élève, lui, il est assis à l'école. C'est à cause de l'élève que le professeur vient. Au niveau de l'administration, il faut que le personnel soit à l'école 2 semaines avant pour que la rentrée soit effective. Ceux qui n'ont pas pu réussir, ceux qui ont échoué à leur examen, par exemple, qui vont donc doubler, il ne faut pas qu'ils se découragent. Il faut qu'ils sachent que, dans tous les cas, on peut toujours ne pas réussir à un examen, mais après être un bon élève, si on s'adonne au travail.
Le président de l'OPCI, Claude Akakadio, l'OPCI, je rappelle, est l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Page africaine, 5 policiers burkinabés en mission de reconnaissance ont été tués samedi lors d'une attaque dans le centre-est du Burkina Faso, a annoncé l'état-major dans un communiqué dimanche indiquant qu'au moins 40 terroristes sont morts dans la riposte des forces de l'ordre. Il faut rappeler justement également que des opérations de ratissage ont été engagées pour sécuriser la zone. À présent, notre dossier d'actualité, violence basée sur le genre, en politique, l'ONG Lead Africaine forme et sensibilise les femmes candidate aux prochaines élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Elle a organisé le vendredi 18 août 2023 à son siège d'Abidjan un atelier dans ce sens, suivant donc ce dossier d'actualité réalisé par Junior Cardin.
La présidente de l'ONG Lead Africaine, initiatrice de cette rencontre, trouve que c'est le moment de dénoncer ces violences faites aux femmes dans le cadre de leur engagement politique. Kaditanou.
Ce qui se passe, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de faire un zoom sur ces candidatures féminines-là pour qu'on comprenne enfin que les femmes qui cherchent à accéder au poste de décision, surtout dans la politique, ce sont des femmes qui sont valables, ce sont des femmes qui en ont la capacité et que ce sont des femmes qui peuvent s'engager pour leur communauté. Et elles s'engagent pour le faire. Et donc, en le faisant, elles font face à des violences.
Ces violences liées à leur statut de femme sont multiformes. Kwasi Amakra, tête de liste dans la commune de Sandégué, se souvient de sa candidature de 2018.
Au-delà de la violence, on m'a même dit que quand ma voiture va franchir l'entrée du village, il va y avoir mort d'homme. Donc déjà même au niveau mystique, on vous menace.
Quant à Agiratou Traoré, tête de liste dans la commune de Koumassi, elle juge son cas particulier.
Ah, personnellement, moi, mon cas, c'est un cas d'espèce, c'est un cas particulier. Moi, je subis beaucoup de violences et menaces verbales à travers les réseaux sociaux comme physiques.
Nous avons tous des droits d'être candidats. C'est l'interpellation que fait Ursuline Blond, candidate tête de liste dans la commune de Sanguiné.
Il n'y a pas de raison pour une femme d'être menacée sur le terrain parce que d'abord elle est femme et aussi parce qu'elle a en face d'elle des personnes qui se sentent plus de droits que d'autres. Non, nous sommes tous citoyens, nous avons tous le même droit et nous avons tous le droit d'être des candidats.
Au nom du CNDH, Conseil National des Droits de l'Homme, Soumaoro Assanata a évoqué la nature de l'appui que sa structure peut apporter aux femmes victimes de ces violences.
La nature de l'accompagnement, elle est fonction de la requête que nous recevons. Il y a des violences physiques qui importent qu'une procédure judiciaire soit enclenchée. Et donc nous, en tant que CNDH, on peut accompagner. Nous avons aussi d'autres types de violences qui n'impliquent pas que l'instance judiciaire soit saisie, mais qui nécessitent par exemple un accompagnement. Ça peut être un accompagnement psychologique. Et nous, en tant que CNDH, on peut référer cette victime-là vers autre structure qui peut apporter cet accompagnement psychologique.
L'ONG Lead Africaine a salué l'application des 30% de femmes sur les listes des élections locales de 2023, mais souhaite en arriver à plus de 30% de femmes tête de liste.
L'invité de la rédaction ce lundi, le député KID Jean Gervais, vice-président du PPACI, se prononce sur la menace de la CDAO d'intervenir militairement au Niger contre les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Le groupe parlementaire PPACI, à l'instar de leur président de parti, se dit être opposé à une intervention militaire. KID Jean Gervais répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, honorable KID Jean Gervais.
Bonjour.
Pourquoi votre parti, le PPACI, est-il contre l'envoi des militaires ivoiriens au Niger dans le cadre de la crise dans ce pays?
Eh bien, le PPACI est opposé à l'envoi des militaires ivoiriens, des troupes ivoiriennes pour intervenir au Niger, comme cela a été décidé par la CDAO, parce que le PPACI estime, par culture démocratique, par principe, que ce n'est pas la bonne solution. Et que le recours aux armes n'est jamais une bonne option pour régler un problème politique, pour régler une crise politique. Nous en avons fait la meilleure expérience en 2011 et aujourd'hui encore, on continue d'en supporter les séquelles. Et donc, le PPACI considère que le coup d'État est à condamner, et d'ailleurs le président Laurent Gbagbo l'a dit, toute forme de coup d'État est condamnable. Mais dans le cas du Niger, recourir à une intervention armée ne fera qu'aggraver les souffrances du peuple nigérien, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi. Donc le PPACI est opposé. Maintenant, le groupe parlementaire du PPACI a fait une déclaration lors d'une conférence de presse pour dire que, avant même d'envoyer des troupes dans un pays étranger, la Constitution fait obligation au président de la République de s'adresser au Parlement et de requérir son avis.
C'est dans la Constitution de Côte d'Ivoire?
La Constitution de la Côte d'Ivoire en son article 104.
Que dit précisément cet article?
Eh bien, avant de déclarer la guerre à un autre pays, l'État de Côte d'Ivoire a le devoir de passer par cette procédure où le président de la République informe, requiert l'avis et l'accord du Parlement. Ce qui n'a pas été fait à ce jour. On peut épiloguer en disant que la Côte d'Ivoire ne déclare pas la guerre au Niger, mais le fait d'y envoyer des troupes pour faire la guerre est la même chose que de déclarer la guerre à un pays frère, même si c'est dans le cadre d'une intervention sous-régionale de la CEDEAO. Nous pensons, comme d'autres pays l'ont fait, comme d'autres chefs d'État l'ont fait, que le président de la République doit d'abord s'adresser au Parlement avant d'engager la Côte d'Ivoire dans une opération militaire hors de nos frontières. À tout le moins, en informer pour que le Parlement donne son opinion là-dessus. Voilà. Mais à ce jour, cela n'a pas été fait et l'exécutif prend sur lui de faire participer la Côte d'Ivoire à une opération militaire contre un autre pays où il y a eu certes un coup d'État, mais où de nouvelles autorités ont été installées et apparemment adoubées par le peuple. Et donc, il est bon de chercher à négocier plutôt que de courir à la force des armes.
Donc, quelque part,
il y a violation de la Constitution si d'aventure on s'y engageait sans passer par cette procédure.
Honorable Tchéidé Jean-Gervais, la CEDEAO n'exclut pas donc de recourir à une intervention armée si les pourparlers échouent. Pour vous, dans ces conditions, où va la CEDEAO aujourd'hui?
Je me pose la question de où veut aller la CEDEAO. Mais dire qu'en cas d'échec des négociations, on va recourir aux armes, revient à dire qu'on va recourir aux armes. Parce que si on a envie de recourir aux armes, on va faire en sorte que les négociations échouent. Et donc, il faut d'abord exclure l'option militaire et privilégier le dialogue. Je pense que cette position de la CEDEAO n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour la CEDEAO elle-même, elle n'est pas bonne pour l'Afrique. Et justement, elle donne des inquiétudes sur l'avenir de la CEDEAO. Je pense que face à une crise politique, même si elle est militaro-politique, il faut exclure d'emblée l'option militaire et privilégier l'option politique. L'idée d'écarter les coups d'État dans nos pays est une bonne chose. Encore faut-il éviter de s'en prendre aux effets et s'attaquer plutôt aux causes des coups d'État. Comme beaucoup de gens l'ont déjà dit, les coups d'État interviennent ces dernières années lorsqu'il y a soit un vrai problème de gouvernance ou alors il y a visiblement une espèce de recolonisation néo-impérialiste qui est farouche et qui ne peut pas convenir aux nouvelles générations. Et donc, c'est ça les causes. Comment refaire l'unité de l'Afrique à partir des peuples et à partir d'intérêts endogènes plutôt que la prise en compte d'intérêts exogènes.
Et la CEDEAO pour vous?
Pour moi, la CEDEAO est à un tournant décisif. Il faut absolument qu'elle fasse sa mue, qu'elle change de lunettes pour voir le peuple africain qui n'est pas celui de 1970, 80 et 90. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il faut absolument faire avec les réalités nouvelles, avec la vision des générations nouvelles et prendre en compte leurs aspirations.
Sinon,
nous courons tout droit vers le mur.
Je vous remercie, honorable Tchéidé Jean-Gervais.
C'est moi qui vous remercie.
L'honorable Tchéidé Jean-Gervais, député et vice-président du PPACI, était l'invité de la rédaction. Et répond aux questions de Soro Adam. Salami journée, c'est tout pour cette édition de Rappel des titres. Élections locales ivoiriennes après la dénonciation par la CEI des activités de propagande électorale dans des localités. Le juriste analyste politique nous a éclairé sur les notions de campagne et de pré-campagne. Nous avons également parlé d'éducation nationale. Claude Akakadio, le président de l'OPCI, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, nous donnait quelques conseils justement à quelques semaines de la rentrée scolaire. Et puis actualité, hors de chez nous, au Burkina Faso, 5 policiers ont été tués lors d'une attaque dans le centre-est, a annoncé l'état-major dans un communiqué dimanche. À présent, la revue de presse présentée par Aoussi Potin.
Bonjour. La majorité de nos tabloïds parus ce lundi 21 août 2023 nous donne comme sujet majeur